Mesdames et messieurs, bonjour. Oui, il y a quand même des hommes. Tout le monde n'est pas parti voir le match de rugby. Parce que alors là, c'est exactement le coup d'envoi a été donné. Donc merci d'être là. Alors, nous sommes rassemblés autour d'un thème qui est fiction du réel. Et comme nous le disions avec les trois auteurs invités, Claire Castillon qui vient pour son empire chez Gallimard, Julien Dufresne-Lamy qui vient pour nous présenter 907 fois Camille chez Plon, et Abel Quentin qui vient d'écrire Le Voyant des Tempes aux éditions de l'Observatoire. Vous avez eu un petit prix, vous, hein ?
Oui.
C'était quoi ? Avec le micro, surtout. Avec le micro.
Oui, le prix de Fleur.
Voilà. C'était ça, avec les gens de l'Observatoire, c'est ça. Il faut surveiller tous ceux qui se trimballent avec des gros UPSA d'aspirine post-fête. Donc, fiction du réel, en fait, je pense que peut-être nous arriverons ensemble à déterminer ce qui peut faire correspondre ces livres à ce thème. Il y a la question de l'emprise, il y a la cancel culture, il y a le fait divers. Alors ça, quand j'ai dit ça, j'ai parlé vraiment d'un tout petit bout de chacun de vos livres. On va dire qu'il y a des effets sur les humains qui les traversent. Ces romans parlent de ce que nous sommes aujourd'hui et pas seulement. Julien Dufresne-Lamy, Julien, vous allez. Alors, je vais vous demander à chacun de nous évoquer le sujet de votre livre en préambule. Donc, alors, 907 fois Camille.
Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ?
907 fois Camille, c'est l'histoire. C'est parce que j'ai la quatrième, donc là, j'ai juste à lire. C'est l'histoire vraie de Camille, qui est une de mes amies. Et que j'ai eu envie de rendre personnage, rendre héroïne dans un texte. C'est la fille d'un proxénète, une figure assez notoire puisqu'il a participé, il a été dans des histoires politiques, médiatiques. Et en fait, le livre est une sorte de question un peu unique qui devient un peu un leitmotiv, une musique dans le livre. C'est de comment on fait pour être une femme, comment on fait pour se construire, pour être femme quand on a un père qui en exploite des milliers par an. Donc voilà, c'était une question que je trouvais belle, peut-être qui n'appelle pas de réponse, mais qui, pour moi, valait livre.
Il y a vous dans le livre, c'est-à-dire que vous êtes toujours à hauteur d'épaule de Camille. Comment avez-vous trouvé votre place dans cette narration ?
Ça s'est fait progressivement, et c'est ce que je raconte aussi dans le texte. Le texte devait être à l'origine un témoignage. J'écris aussi des histoires en tant que ghostwriter pour d'autres gens, et j'avais envie avec l'histoire de Camille d'abord de lui offrir ce que je sais faire, c'est-à-dire les mots, et que elle finalement signe un texte. Voilà. Finalement, quand je comprends et quand je sonde un peu ces les zones d'ombre de sa famille, ses silences, ses contradictions, le fait voilà qu'elle, c'est le principe d'un travail de mémoire en fait, que tout n'est jamais ordonné, que tout n'est jamais linéaire, comme ça dompté, classé. Je me suis dit que finalement le genre qui était le plus à même en fait de venir illuminer ces zones-là un peu étranges, c'était le roman, ou la narrative non-fiction, enfin on peut l'appeler comme on veut aujourd'hui. Et donc finalement, quand j'ai un peu recalibré la trajectoire du texte, j'ai commencé à écrire au jeu. J'avais envie, finalement, puisque ce n'était plus du tout un témoignage, de la rendre, ce que je dis tout à l'heure, vraiment très héroïne, très personnage, et de finalement de m'adresser à ce personnage-là, pour déjà effacer aussi la frontière amicale qu'il existait entre nous. Et puis pour aussi, je crois, d'une certaine façon, de montrer à Camille, pour qui c'était pas simple finalement de devenir personnage de livre. Aujourd'hui, c'est encore pas simple pour elle de se dire mon histoire de famille, l'histoire de ma mère, l'histoire de mes sœurs, l'histoire aussi de mon père est aujourd'hui un livre comme ça présent dans les salons et sur les tables de librairie. Et que c'était une manière pour moi de me rendre complice et de lui dire on est dans le même bateau, toi et moi, je vais te raconter, tu n'es plus prise dans les mailles comme ça de ce monstre, tu n'es pas la fille qui raconte, tu deviens un personnage littéraire. Et moi, je vais questionner aussi mon propre rapport finalement à l'écriture, à mes figures parentales et à pourquoi cette urgence-là de faire de ta vie un roman.
Alors, si j'en crois ce que j'ai lu dans le livre d'Abel Quentin, vous vous livrez tout de même à une chose assez effroyable, Julien. Vous vous livrez à l'appropriation culturelle, puisque vous parlez d'une femme et vous faites un magnifique tableau de femme, tableau de la sensibilité féminine, et vous êtes un homme. De quoi vous mêlez-vous ?
Alors, vous rigolez, mais c'est une question qui m'a traversée en écrivant ce texte.
Faut pas.
J'ai écrit un précédent roman sur une femme trans, j'ai écrit un précédent roman sur un personnage racisé, et j'avais eu ce genre de commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, de « tu n'es pas légitime à incarner un questionnement transidentitaire si tu n'es pas toi-même traversé de questionnement transidentitaire ». Donc ce genre de thématiques qui sont aujourd'hui, et que j'aborde d'ailleurs un peu en filigrane dans ce texte-là, de aujourd'hui, cette montée un peu d'une forme de censure culturelle de ces gens qui se proclament un peu procureurs de ce qu'on a le droit de faire ou non, quand la littérature, elle peut tout et elle doit tout pour retranscrire notre rapport à l'autre, notre rapport au monde. Il est obligatoire, finalement, de se transformer, de se transcender et de, finalement, j'écris pour Camille, et quand j'écris pour Camille et sur Camille, je suis Camille, j'incarne et je m'investis dans son corps et dans sa tête. Et finalement, peu importe ces réactions comme ça et ces termes-là un peu barbares.
Je pense qu'on en reparlera avec Abel tout à l'heure. Claire Castillon, son emprise, son empire. Alors, de qui parle-t-on ?
On parle d'un homme. Mais on parle surtout d'une petite fille et de sa mère qui vivent toutes les deux sans doute, mais surtout la mère sous l'emprise d'un homme qui s'installe chez elle et qui vide la mère petit à petit de sa substance. Donc je pense qu'on parle de la disparition d'une personne alors qu'elle est encore dans la pièce, mais d'une personne dont l'intérieur est vidé.
Alors, c'est raconté, donc c'est une histoire d'emprise qui est racontée, qui n'est pas racontée du point de vue habituel d'une femme qui se retrouve dépossédée d'elle-même, mais du point de vue de sa fille. Pourquoi avez-vous fait ce pas de côté ? Qu'est-ce que ça permettait de changer le narrateur ?
Ben, je pense que ça me permettait de raconter la maison empoisonnée et qu'un enfant raconte ce qui se passe quand, dans une maison, on met... On fait entrer une personne qui distille son poison. Ça me permettait ça, et ça me permettait de parler d'emprise sans parler de sexe et sans parler de cerveau. Parce que j'ai l'impression qu'une femme qui raconte ça, elle raconte forcément ces deux choses-là. Il y a une emprise intellectuelle, il y a une emprise physique, vraisemblablement. Et je pense que l'enfant, j'avais envie qu'elle ait pas les mots, qu'elle ait pas la connaissance de l'amour et qu'elle ait seulement l'impression. Et ça me permettait de décrire l'homme par les yeux de l'enfant, et donc à la fois l'homme attirant et le bourreau, mais par des yeux qui n'ont pas encore connu ni l'amour amoureux dans la tête, ni l'amour physique, qu'elle le décèle. Ça me permettait d'écrire par touche et par indice.
Vous avez travaillé avec des femmes battues il y a quelques temps. Est-ce que la question de l'engagement féministe, la cause des femmes, vous touche ? Est-ce qu'il y avait cette idée-là dans le projet de ce livre ?
Je ne crois pas qu'il y avait cette idée-là. Il y avait vraiment le... Enfin, sans doute que ça m'a nourri, mais j'ai vraiment l'impression que le livre, il est en moi, et puis quand il est complètement en moi, je suis pleine de lui et il faut qu'il sorte. Et là, il y avait cette petite fille face au monstre qu'elle aime bien, en fait. Et c'était ça mon idée, c'était vraiment c'est ça qui me fait envie au départ. C'est pas un thème plus général que ça. C'est quelque chose d'assez petit, c'est de l'émotion pure d'une enfant qui se retrouve en face d'un sale type, en fait, qu'elle aime bien, puis qu'elle aime plus.
Et ça, c'est l'ambiguïté, l'ambivalence des sentiments, alors, parce qu'on peut aimer bien quelqu'un de monstrueux.
Oui, je pense que justement, c'est ça que j'avais envie d'écrire, et puis je m'en suis rendu compte en l'écrivant, mais c'était la possibilité du va-et-vient entre... entre les premiers jours et l'idée de l'homme superbe qui arrive à la maison et qui va être un compagnon de jeu et qui va être un compagnon et qui va éclairer sa mère. Et puis l'idée de la suite où finalement le type prend toute la place et la mère devient une ombre et la petite du coup essaye de sauvegarder un paysage agréable en mettant comme des gommettes sur tout ce qui lui plaît pas, parce qu'elle est capable avec sa tête d'enfant de transformer vraiment un paysage qui va pas. Il suffit de masquer certaines parties de la photo et elle est belle.
Justement, vous parlez de photos, c'est rigolo parce que vous incarnez, enfin vos personnages sont très existants, mais vous ne les décrivez jamais. Vous ne passez pas du temps à nous décrire un œil, une expression. Les personnages sont en général saisis par leur intériorité. Et pourtant, peut-être davantage dans celui-ci que dans les autres, il y a quelque chose de très physiquement présent, de très très vite incarné. Alors j'imagine que les personnages tels que je les ai lus ne ressemblent pas forcément physiquement à ce que vous avez pu y mettre, mais il y a quelque chose de particulièrement pictural dans ce livre-là, et non pas et pas seulement visuel, quelque chose de l'ordre d'une transformation permanente du regard. Certes de la petite fille sur cet homme, mais qui s'illustre aussi à travers un peintre, hein, pardon, je vais le dire rapidement, mais Francis Bacon. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de très baconien dans la façon dont on visualise ce type, ce monstre.
Ben, je crois que c'est l'effet gommette, en fait, c'est ce que je disais là. Je pense qu'il est fou, l'homme, donc il est à la fois extrêmement charmant, et dans ces cas-là, il a un visage, et quand il est extrêmement monstrueux, il a vraiment un autre visage. Et je pense que l'enfant voit les deux, sans être capable de voir le même homme et de se dire. Et donc, en fait, quand il change d'humeur, il change vraiment de visage. Il a pas la même tête, il a pas les mêmes creux et il fait pas les mêmes bosses. Il y a quelque chose comme ça, donc qui donne un spectacle toujours mouvant des physiques. Et la mère est pareil, puisque la mère, en effet, elle s'illumine quand l'homme s'approche, elle s'éteint quand il s'éloigne. Il y a quelque chose de la physique des êtres entre eux qui se modifie. Il y a comme une chimie à l'intérieur de cette maison tout le temps, avec la petite alchimiste qui fait ses mélanges.
Qui fait ses mélanges et qui ne sortira pas indemne de cette histoire non plus. C'est pas parce qu'on raconte l'histoire qu'on en est disjoint.
Non, oui, c'est vrai.
Abel Quentin, le voyant des tempes, quel sujet sulfureux dans la vie de votre héros Jean Roscoff.
Oui, donc Jean Roscoff, que je vous présente du coup.
Bah oui.
Allons-y. Jean Roscoff, c'est un sexagénaire, un boomer, comme on dit, qui est un homme amer parce que au début de sa carrière dans les années 80, il avait vraiment la vie devant lui. C'était un normalien qui était un séducteur, militant SOS racisme, donc c'est important. C'est-à-dire quelqu'un qui se sentait immunisé contre toute critique sur le terrain du racisme, etc.
Et de la morale.
Et de la morale, de façon générale. Il vient de la gauche morale. Et 35 ans après, cet homme qui a pris du bide, parce qu'il boit énormément, c'est important, qui a pris du bide et qui s'est fait quitter par sa femme, qui est placardisée à la fac, en fait, il écrit un livre sur un poème, un poète noir qu'il a beaucoup aimé. Sauf que il va pas voir le noir, il voit plus le communisme, parce que cet auteur noir américain, c'est un communiste qui fuit le macartisme dans les années 50, qui arrive à Paris, et lui, il s'est entiché de la poésie de cet homme, quoi. Il trouve que c'est un poète génial et qui est un peu passé à l'as de la postérité. Donc il écrit un livre sur lui et il va se faire accuser d'appropriation culturelle de façon très violente. Il va y avoir une grosse polémique et c'est l'histoire de cette polémique, en fait.
On va pas s'arrêter là. Robert Willow, hein, il s'agit de Robert Willow. Alors évidemment, j'ai fini par craquer, je suis allée vérifier, il n'existe pas.
Non.
Voilà.
C'est dommage de le dire parce que l'idée c'est...
Ah zut.
Bah c'est fait.
Oui, enfin, bah, ça change pas grand chose.
Pas grave.
Non mais ça change rien de toute façon.
Non, c'est pas grave. C'est pas grave.
Il est... Justement, on a quand même besoin de vérifier.
Bien sûr.
On aurait dû se briefer peut-être avant, alors, du coup.
C'est pas grave.
D'accord. Ok. Vous dites, donc, Jean Roscoff, c'est l'histoire d'un homme qui est une promesse non tenue. C'est surtout de la frustration plus que de l'amertume, ça.
Est-ce qu'il est frustré ? Moi, je dis amer parce que je dis qu'il a l'heure amère des premiers bilans. C'est pas non plus 65 ans, c'est pas si vieux que ça, mais disons que le plus gros du chemin a quand même été parcouru et... Et c'est vrai, il avait voulu mieux pour sa vie, et les choses se sont pas passées comme il le voulait pour diverses raisons. D'abord, parce qu'il est impossible, qui picole comme un trou, mais aussi parce que c'est un homme qui s'est planté énormément, donc il y a un côté gaffeur. C'est un livre qui aussi a un côté farce, et notamment en 95, il fait déjà un bouquin sur les époux Rosenberg, qui sont deux espions communistes qui ont été exécutés en 1953 aux États-Unis. Et lui, il fait ce bouquin de 600 pages en disant, en fait, ils sont innocents. Et le jour de la parution, en fait, il y a la CIA qui déclassifie des notes et qui dit, bah, ils étaient vraiment coupables. Donc, en fait, son livre, il est mort-né, quoi. Il a investi des années dessus. Et donc, il a ce côté aussi un peu chat noir, quoi. Enfin, il a vraiment, il a pas de chance. En même temps, il provoque sa malchance parfois par ses comportements très erratiques.
Vous disiez que l'alcoolisme était important dans ce personnage. Pourquoi ?
Bah, c'est sa drogue à lui. Hein. Chacun a ses... Lui, c'est ça. Et voilà. Et il tombe dedans. Et bientôt, ça le fait se désengager professionnellement. Et puis voilà, c'est l'histoire d'une longue déchéance. Et ça, c'est des parcours qui existent partout autour de nous. C'est-à-dire qu'au début, il va déjà commencer à renoncer à devenir professeur d'université, puis il va commencer à arriver en retard en cours, et puis on va lui proposer plutôt le créneau de 19h où les amphis sont vides, et puis bientôt il va comprendre qu'il s'il peut ne plus garer sa bagnole sur le parking des enseignants, ce serait mieux. Et voilà, comme ça, c'est une espèce de glissement. Et donc c'est un personnage de loser, mais j'espère de loser attachant. Moi, c'est un personnage que j'ai voulu créer avec tendresse, parce que qui sait reconnaître ses torts, qu'il a une forme d'honnêteté intellectuelle aussi. Et...
Alors justement, c'est un peu ça, la base du livre, c'est son honnêteté intellectuelle, puisque il est sévèrement remis en question par la compagne de sa propre fille. Est-ce que finalement l'alcoolisme n'est pas aussi cet élément de vulnérabilité qui permet à la remise en question d'aller fouiller plus profond dans cet homme ?
Oui, sans doute. Il a déjà pas une très haute image de lui-même, donc c'est quelqu'un qui a des prédispositions, vous avez raison, à se remettre en question. Parce qu'il tombe pas non plus de très très haut, il est déjà pas, il est pas très très haut. Et du coup, c'est vrai que quand tout ça lui arrive, il est accusé d'être raciste même. En fait, ça va assez loin. On lui dit, vous avez tellement minoré, finalement, l'identité noire de cet auteur, que, quelque part, vous avez, été violé son œuvre, vous ne l'avez pas respecté, et donc ça va aller très loin, et même ça va avoir des impacts sur sa vie concrète. Sa porte va se faire taguer, il va commencer à être harcelé sur les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'il se remet alors en fait ce qu'il va découvrir, c'est que le lexique de l'antiracisme a changé, donc c'est comment ce livre parle aussi de ça, comme on est parlé des slogans des SOS racisme, on est tous des enfants d'immigrés, à un lexique beaucoup plus complexe, intersectionnalité, privilège blanc, fragilité blanche, tous ces mots-là. Et lui, il va les découvrir sur le tard. Et bon, il a un peu le zèle des nouveaux convertis. Il va essayer de faire les choses bien, mais du coup, il va s'en mêler en permanence les pieds dans le tapis parce que il maîtrise pas du tout les codes de communication modernes, mais toujours avec une forme de, quand même, d'envie de s'amender. Et puis aussi parce que ce changement-là, il ne l'a pas vu, mais en même temps, il l'avait sous les yeux. C'est ça un peu parce que sa fille, c'est vrai, c'est le personnage de sa fille qui est important dans le livre. Elle est militante intersectionnelle. Elle a une copine aussi qui est très, très virulente. Et donc voilà, il y a aussi toute ce clash des générations. Hein, il y a vraiment cette idée-là, un peu les boomers contre les millennials, ce que j'ai voulu de façon comique exposer. Quoi. Ces deux générations... qui s'entendent pas, et
Jean et Jeanne
qui est la copine de sa fille Léonie. Voilà.
On a l'impression qu'on est dans une filiation alors qu'on est au contraire dans un antagonisme radicale.
C'est vrai.
C'est aussi un procès, pardon, un procès. Oui, il y a un petit peu un procès quand même dans... Vous êtes avocat, non ? C'est aussi le processus de l'évolution de la gauche depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Quel regard portez-vous ? J'ai un peu donné un indice.
C'est un roman, c'est-à-dire que je mets à jour des contradictions, il y a des discours antagonistes qui s'expriment, mais j'ai vraiment pas voulu faire un texte, une satire qui comme ça qui assume un point de vue, parce que j'ai moi-même, je pense, beaucoup de doutes sur ces questions-là. J'ai même évolué en cours d'écriture sur mon regard sur ces questions-là, ont évolué parce que aussi j'ai lu leurs auteurs et donc. C'est un livre qui, en revanche, est dur sur tout effet de meute, parce que j'aime pas les effets de meute, j'aime pas quand, sur Internet, des gens s'acharnent contre quelqu'un, j'aime pas quand on juge trop vite quelqu'un, j'aime bien l'indulgence, j'aime bien l'humilité, parce qu'on a dit que le manque d'indulgence, peut-être, de certains militants est lié aussi à un manque d'humilité. Mais en revanche, il n'y a pas de propos politiques très clairs, mais c'est vrai qu'il y a cette évolution de la gauche qui est très intéressante, avec des gens... qui se font dépasser par leur gauche et qui l'ont pas trop vu venir et qui sont toujours vécus avec peut-être une forme de morgue intellectuelle et aussi d'autosatisfaction, qui sont vécus comme étant du côté du bien et à qui, avec un mécanisme d'essentialisation, on dit mon gars, t'as beau faire toutes les manifs que tu veux, moi ce que je vois c'est un vieil homme blanc, donc que t'aies voté pour tel ou tel, je te renvoie à ton essence. Et donc ça, il le supporte pas et il le vit de façon... totalement injuste. Et en même temps, il s'est planté sur pas mal de trucs. Et peut-être que. Voilà. Et ça, je veux pas trop en dire, parce que l'idée, c'est que le lecteur découvre aussi la personnalité de ce poète noir américain qui est un peu mystérieux au fil de la lecture.
Et il y a des rebondissements jusqu'à la dernière page, je n'en dirai pas plus. Qu'est-ce qui vous a mis à l'œuvre de ce livre-là, de cette histoire-là ?
C'est plusieurs. Alors déjà l'envie de faire un livre drôle, c'était important pour moi parce que mon premier livre n'était pas hyper marrant. Donc là, j'ai vraiment voulu faire un livre drôle. C'était quelque chose, un choix. Et ensuite, il y a eu. C'est vrai, une actualité, des thèmes qui sont celui de la aussi de la liberté de la fiction. Avec une fiction qui, par exemple, aux États-Unis est directement menacée, c'est ce que disait Julien, quoi. C'est sur cette question de est-ce qu'on a fait le droit de faire, par exemple, parler une femme trans. Moi, je pense que c'est essentiel qu'on puisse continuer à le faire. Et ce que je vois, c'est que de l'autre côté de l'Atlantique, cette liberté-là, elle est mise en question. Avec heureusement des voix qui s'élèvent pour dire la fiction avec ce que ça comporte de prédation. C'est vrai, quand on s'approprie le vécu d'autrui, je pense qu'il faut le faire sérieusement. Ça oblige, bien sûr. Mais je crois qu'il faut pouvoir le faire, c'est important, et ça m'a inquiété. J'ai lu sur le sujet, j'ai vu des livres qui étaient décommandés aux États-Unis, des romans qui ont été dont les sorties étaient annulées, et puis c'est vrai, des sujets qui sont ceux de l'identité et de l'universel aussi, qui à mon avis une notion en crise qui m'intéressait. Et puis c'est lignes de fracture qu'on voit au sein des...
C'est devenu fasciste, l'universalité, un peu.
C'est ça. C'est, en fait, aujourd'hui, on parle de ces fameux clash entre la gauche universaliste et la gauche intersectionnelle. Il y a le même au sein du mouvement féministe. On parle de féministe universaliste et peut-être plus de néo-féministe. Et moi, je trouve ça passionnant. Et en même temps, ces clivages, ils ont toujours existé. C'est ce que je montre. C'est-à-dire que dans les années 50, il y a déjà... vous avez Césaire qui ne parle pas exactement le même langage que Frantz Fanon. Oui. Au début du SOS Racisme, il y a... pareil, des dissensions au sein du mouvement qui où on voit que ça, c'est déjà en germe. Simplement, ça n'est peut-être pas de façon aussi visible, et aujourd'hui c'est très très visible. C'est peut-être une forme de clarification aussi, donc là c'est pas c'est quelque chose que je trouve intéressant.
Et puis vous dites aussi, il y a Malcolm X
et Martin Luther King
aussi. Je vais demander à vos camarades sur ce plateau, est-ce que justement on parle de liberté de création, est-ce que vous sentez, Julien, que notamment à travers ce que vous nous des échos qui ont fait suite à votre précédent livre, est-ce que vous vous sentez libre de créer encore, ou est-ce que ça devient une espèce d'acte d'engagement particulier?
Oui, je crois que je me sens toujours libre de m'emparer d'un sujet ou d'un autre. mais peut-être que je pense davantage aux précautions qu'il faut comme ça mettre en place. Pour celui-ci, c'était quand même les précautions de ne pas tomber dans la diffamation, l'attentat à la vie privée. Je parle d'un personnage un personnage qui a été public. Donc tout ce que je dis, notamment sur le père Proxénète, a été soit dit publiquement par lui dans les médias, soit c'est les minutes des procès, soit c'est son livre, soit c'est des souvenirs incarnés par sa fille, qui est légitime en fait de raconter, quand bien même un souvenir est toujours biaisé, mais ça reste un moment comme ça légitime. Pour mon précédent roman sur la transidentité, puisqu'on en parlait un peu et que c'est effectivement quand même un sujet de vraiment de crispation sur le sujet. Je sentais qu'il y avait une sorte de série comme ça de barrières et d'obstacles où il fallait faire un peu attention. Il y a pas mal de séries d'écueils, mais j'ai l'impression qu'effectivement s'octroyer cette liberté là c'est aujourd'hui ce nouvel engagement un peu presque artistique, littéraire, à continuer à incarner celui que l'on n'est pas, finalement de d'écrire les aventures d'un homme blanc trentenaire, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et je crois effectivement, puisqu'on est entouré et qu'on en parle beaucoup entre auteurs, de toutes ces pressions un peu qu'on peut subir à la sortie de certains romans. Moi, je parle d'elle, de ma meilleure amie qui a écrit sur son expérience de prostituée, qui a essuyé des menaces de mort de la part de féministes pendant 2 ans. Qu'on vit quand même dans une virtualité qui est absolument agressive, où on oublie un peu le mot d'ordre de on a le droit de vivre et on a surtout le droit de laisser vivre l'autre. Et c'est vrai que aujourd'hui cette coloration, ce paysage-là est de plus en plus inquiétant.
Claire Castillon, est-ce que vous sentez complètement libre d'aborder n'importe quel sujet, ou est-ce que vous pensez au contexte dans lequel votre idée va prendre forme et devenir un livre ?
Dans l'ensemble, je me sens libre, mais quand je dis ça, j'écris aussi pour la jeunesse, et récemment j'ai écrit une série sur un chien, et on m'a dit qu'il y avait des sensibility readers qui refusait qu'il y ait un canard transgenre dans mon livre, puisque ce chien tombe amoureuse d'un chat et décide d'adopter des enfants dont un canard transgenre, et donc le canard transgenre n'est pas passé parce qu'il était moqueur. Et j'ai essayé de me battre en disant, mais c'est un personnage, c'est absurde, parce qu'il y a aussi une chienne facho et extrêmement raciste, mais parce que c'est une chienne très bien élevée, très complètement rigide, qui voilà, et donc c'était très drôle qu'elle ait des trucs, qu'elle ait une espèce de caractère de pourri, quoi. Et ça pouvait pas. Donc j'avais dit, ça veut dire qu'aujourd'hui on peut pas donner à lire à un enfant un livre dans lequel il y a un personnage raciste, par exemple, ou dans lequel il y a un personnage hyper étriqué, où on peut pas mettre un canard transgenre, et en effet on pouvait pas. Donc mon canard aujourd'hui il a un prénom de fille, mais c'est un garçon, parce que ça c'est comique, et que voilà. Et là c'est vrai que ça m'a étonnée qu'il y ait un sensibility reader ici maintenant. En littérature adulte ça m'est pas encore arrivé. J'ai eu une censure. Oui. Là, j'ai écrit un livre sur un pédophile pour la jeunesse aussi. Et là, j'ai eu aucune censure, à part celle que je me suis mise intuitivement en me disant ça s'adresse à la jeunesse. Donc, bien sûr, les scènes seront celles que je ressentirais possibles pour des enfants de 12-15 ans, quoi. Mais voilà, en littérature adulte, peut-être parce que j'ai un éditeur qui tolère, on ne m'a pas encore dit non, ça on ne peut pas le faire, ou ça ne peut pas exister, ou ça ne peut pas être dit.
Il y a eu quelque chose avec ma grande.
Ah oui, c'est vrai. Oui, en effet, ma grande, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un homme qui raconte pourquoi il a tué sa femme, parce qu'elle le poussait à bout. Et un éditeur m'avait dit qu'il le prenait si je retournais l'histoire en faisant l'inverse, c'est-à-dire une femme battue par son mari qui le tue parce qu'elle souffre. Ça passait, et l'inverse ne passait pas, mais heureusement, j'ai rien changé, donc j'ai encore réussi à trouver un espace d'une liberté pour garder l'histoire comme elle venait. Non, j'avoue que le canard, enfin, ça aurait été en adulte, je pense que j'aurais pas fléchi. Là, je pense que j'ai été nulle, en fait, de dire « Ok, j'enlève mon canard ».
Un drôle d'histoire. En tout cas, pour les romans adultes, vous avez un éditeur qui s'appelle Jean-Marie Laclaftine chez Gallimard et qui vous préserve un espace de liberté sans sensitivity readers.
Bah oui, typiquement pour ma grande, je pense qu'il voyait l'intérêt de ma grande dans le fait que c'était un homme poussé à bout et pas l'inverse. Enfin, ce qui est, voilà, c'est un thème comme un autre.
Abel, Quentin, quelles ont été les réactions à ce livre qui est drôle, mais qui est une vraie réflexion impartiale, sincère, sur la remise en question et jusqu'où par rapport à ce phénomène de société assez violent, très revendicatif, qui est survenu peu de temps après les États-Unis.
Sur la réception, quoi, du coup. Bah, c'est vrai que j'étais assez curieux parce que comme mon livre en fait parle du lancement d'un livre et de sa réception, il y avait une sorte de mise en abîme amusante quoi, de voir si il allait m'arriver finalement la même chose qu'à mon narrateur. Oui. Ça a été le cas un petit peu au début puisque ben voilà les premiers papiers que j'ai, c'est évidemment Valeur Actuelle et en gros il y a eu clairement une réception, enfin une lecture politique de mon livre, ce qui pour moi était un peu absurde. Parce que j'avais l'impression d'avoir fait œuvre romanesque quand même et de pas asséner une vision. Enfin, je voulais pas. Il s'agissait pas de faire un livre en disant regardez les woke, c'est espèce d'hystérique avec une forme de dédain quoi. Parce que j'ai lu leurs auteurs, j'ai essayé de et je crois que dans mon livre j'ai voulu que mon narrateur il ait aussi ce regard bienveillant en fait. Je parle aussi de bienveillance parce que c'est peut-être ce qui me manque dans ces polémiques là en fait, c'est la bienveillance, c'est ne pas réduire aussi quelqu'un à trois phrases malheureuses, et donc c'est vrai que oui j'ai eu au début parce qu'en fait ce qui lui arrive à mon narrateur c'est un peu aussi un ressort comique, c'est qu'il se retrouve à être aidé quand il est vraiment au plus bas que terre, il se retrouve aidé par des limites des skinheads quoi, qui viennent le voir en bas de chez lui, qui lui disent avec mon gars on est avec toi si t'as des problèmes et tout viens, mais j'étais avec Julien Drey et SOS Racisme, enfin tout un truc comme ça où absurde.
Il y a aussi d'autres, une autre catégorie qui l'aide, justement la catégorie racisée, comme on
oui,
dit.
Oui, et voilà, et dans son parcours, finalement, dans cette chute, il va avoir des alliés improbables, et aussi, en revanche, il va être déçu par ses amis, c'est-à-dire que son meilleur ami va faire preuve de lâcheté, son éditeur va aussi le lâcher, et en revanche, bah, c'est plutôt les personnages féminins qui sont solaires dans ce livre, avec une ex-femme qui va rester droit dans ses bottes à ses côtés, sa fille. Et une jeune femme noire qui s'appelle Marie et qui va l'aider aussi à retrouver une forme de rire, enfin qui va aussi le faire redescendre un peu quand il va utiliser des mots un peu énormes en disant je suis lynché, c'est une mise à mort sociale. Bon, elle va lui dire ok, tu passes un mauvais moment, mais rions-en ensemble. Et elle a comme ça cette beauté, cette femme qui n'est même pas une amie de longue date et qui va vraiment être présente pour lui. Voilà, bizarrement, comme parfois dans la vie, on peut avoir un coup dur et on aura parfois des alliés improbables, des gens qu'on ne soupçonnait pas, qui seront là à vos côtés, là où ceux qu'on attendait à ses côtés font défaut. C'est ce qui arrive à mon narrateur.
Quand vous parlez d'alliés improbables, en effet, son ex-femme, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait cette évolution dans leur relation, dans la mesure où, dès le départ, c'est quand même le personnage qui le méprise le plus, sans aigreur. Mais enfin, elle a une opinion très piètre de son ex-mari.
Comme quoi, les livres appartiennent au lecteur, parce que moi, dans ma tête, elle était encore secrètement amoureuse. Pas amoureuse de lui, mais elle a une sorte de tendresse. En fait, elle a été épuisée. Elle l'a pas. Pour moi, elle l'a pas quitté parce que elle le méprise, elle l'a quitté comme parce que c'est un enfant en fait. Le type est ingérable et donc c'est aussi un mécanisme. En fait, c'est un homme qui est dominé totalement. Donc c'était aussi pour montrer les limites de l'essentialisation, c'est que cet homme qui est considéré au milieu d'une polémique comme l'oppresseur oui. par essence, concrètement dans sa vie, son ex-femme, c'est elle qui incarne une puissance financière, il a vécu à ses crochets et elle est clairement une personne beaucoup plus dominatrice, beaucoup plus charismatique, et elle incarne comme ça, c'est elle qui tient le carnet de balles, et il le dit à un moment donné, il dit quand elle m'a quitté, c'était le vide autour de moi, parce que je gravitais autour d'elle comme un astre mort, quoi. C'est-à-dire que, et donc elle le méprise, mais elle a encore de la tendresse, et puis c'est vrai qu'elle le lâche pas, c'est-à-dire que elle reste comme ça, comme un soutien critique, mais un soutien.
Peut-être qu'on peut aussi aimer quelqu'un qu'on méprise un peu.
Tout est possible.
Vous parlez vers la fin du livre, vous parlez de Camus et de la nuance comme courage suprême. Je voudrais que vous nous parliez un peu de la façon dont vous faites sortir votre personnage, justement par la question de le personnage, le lecteur et la problématique du livre, par la question de la nuance.
Oui, c'est vrai, il y a cette référence à un discours qui est donné en 1948 par Camus à la salle Pleyel, où en fait, à une époque d'extrême tension, de guerre des tranchées intellectuelles entre le bloc de l'Est et entre l'Amérique et l'URSS, lui dit un intellectuel doit rester libre, je crois à la nuance, je crois à une troisième voie, on veut m'embrigader, on voudrait que je sois un porte-voix. Non, moi je pense finalement on ne peut pas être intellectuel et militant, quoi. Quelque part, il y a une sorte de contradiction. Dans les termes. Et donc, il fait cet éloge de la nuance et c'est un thème central parce que finalement, mon narrateur, il est ballotté entre deux camps qui sont dans une forme d'hystérie, de manichéisme et qui refusent, en fait, qui considèrent que la nuance est une faiblesse finalement. La nuance, la nuance, c'est jeter les armes à terre, c'est concéder quelque chose à son adversaire. Et lui, ce qu'il essaye de dire, Jean Roscoe, dans tout ça, c'est non, la nuance, c'est peut-être le courage suprême, comme le dit en substance Camus, parce que c'est une erreur de penser que concéder quelque chose à son adversaire, c'est finalement rendre les armes. Je pense qu'au contraire, on sort grandi. Et lui, il aussi, c'est un personnage de roman, donc il y a des moments où il trouve ça insupportable qu'on l'attaque, et puis il y a des moments où il arrive à prendre le discours d'autrui, mais il le montre bien aussi, c'est plus facile de se rendre aux arguments d'autrui quand on fait le chemin tout seul chez soi, une fois qu'on est rentré chez soi après la dispute, que de le faire contraint par les arguments d'autrui, parce que quelque chose pour l'ego qui est plus désagréable de dire honnêtement, t'as raison, je me suis planté. Et donc lui, voilà, ça l'horripile de reconnaître un quelconque tort, et puis il y a des moments où il se dit non mais au fond j'ai raison, puis après il réfléchit, il se dit peut-être que c'est vrai, j'ai pas vu assez l'identité noire de cet auteur, j'ai lu sa poésie avec un espèce de prisme d'universitaire qui est en plus spécialiste du maccartisme, donc obsédé par la question communiste, donc il oscille entre les deux, et voilà, c'est aussi assez comique de voir comme ça quelqu'un qui de voir une pensée en marche et quelqu'un qui est perdu dans le désert, quoi.
Est-ce qu'on peut encore, et ça c'est une question pour tous les trois, est-ce qu'on peut encore apprécier une œuvre, analyser une œuvre sans faire du Sainte-Beuve, c'est-à-dire sans aller chercher une justification dans la vie ou dans le profil, l'identité de son auteur? Théoriquement, vous qui êtes écrivain, vous écrivez des textes qui se suffisent à eux-mêmes, c'est-à-dire vous travaillez pour une postérité, vous serez bientôt mort, enfin pas tout de suite, mais enfin bien, bon, à l'échelle, en plus vos livres se vendront encore plus. Donc en fait, vous ne serez pas là pour tenir, pour soutenir votre travail. Est-ce qu'au fond, c'est encore permis d'écrire des romans qui ne seront pas expliqués par leur auteur et par sa vie?
Oui, Mais vraiment, je pense qu'il y a tout type de lecteurs et qu'il y a, je suis sûre qu'on peut encore prendre des lectures comme des chocs, comme des choses d'intuition, comme des, et qu'il n'y a pas forcément des penseurs derrière chaque écrivain, dans chaque écrivain et dans chaque lecteur. Il n'y a pas forcément toujours des fils à tirer qui sont supérieure à ces choses hyper sincères, logiques, évidentes, un peu premières en fait. Moi j'ai toujours lu de cette manière-là, en me disant ça me prend ou ça me prend pas, ça me fait plaisir ou ça me fait pas plaisir. Et quand j'écris, en effet, je pense jamais au-delà de ce qui est en saturation en moi et qui doit sortir. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même que ça existe, qu'on cherche beaucoup de sens partout et qu'on peut en trouver dans n'importe quel texte. Moi je suis très contente parfois quand des gens me disent tout ce qu'ils ont vu dans mes livres et je suis épatée parce que j'y ai pas pensé 3 secondes, hein, donc et puis je veux surtout que ça reste comme ça en fait.
Et qu'est-ce qui fait que vous écrivez ? Qu'est-ce qui fait que vous empoignez un sujet ? Est-ce que vous creusez des questions ? Je suis en train de dire le contraire de ce que vous venez de dire, mais est-ce qu'il y a des questions que vous avez envie d'élucider ? Un regard sur les hommes et le monde, les hommes, les humains, que vous approfondissez ? Qu'est-ce qui fait qu'un sujet vous surgit pour vous ?
Moi, je pense que c'est l'envie d'écrire. Ben, c'est très personnel, hein, mais c'est que je sais qu'à un moment, je peux pas faire autrement. Je sais pas parler. J'aime écrire ou j'aime pas d'ailleurs, mais c'est la chose que je fais parce que ça m'envahit. Et ce qui m'envahit au départ, c'est jamais un thème, c'est un personnage, c'est une vague idée, mais j'ai une vague idée du mouvement, je sais pas ce que ça contient, j'ai une sorte de départ, de point de départ, je dis souvent que c'est la fin, que c'est l'envie de courir, que ça ressemble donc à quelque chose à une demande du corps.
Une demande du corps?
Oui.
D'accord. Julien?
Oui, une demande. Alors, je pourrais pas vraiment localiser si c'est la tête, le ventre, mais effectivement, c'est une urgence quelque part qui se niche, et qui, pour autant, c'est vrai, une envie d'écrire qui pourrait effectivement, comme ça, se désolidariser de toute époque, de tout contexte. Et pour autant, là, nos trois sujets sont quand même très très inscrits dans une modernité, des sujets quand même au cœur de nos tissus sociaux. Donc c'est quand même toujours un peu difficile de d'isoler la partie purement sensuelle, esthétique d'un roman et sa partie plus engagée, plus sociale, plus politique. Et quand un sujet nous vient finalement des très bons sujets de livres, il y en a des milliards, enfin des sujets qui pourraient finalement être 5, 10, 15 premières pages d'un manuscrit, mais pour que voilà, le manuscrit soit investi de A à Z, ça demande beaucoup plus. Moi j'ai l'impression que c'est une sorte de jauge invisible, intérieure, qui se remplit un peu à peu, et lorsque la jauge est pleine, mais Claire parlait aussi de cette plénitude-là, le livre est prêt, quelque chose est prêt, un mouvement, effectivement, une envie de se mettre comme ça debout. Et c'est vrai que ça peut effectivement partir d'un détail absolument insignifiant. On parlait des chiens et des canards. Un jour, j'ai eu envie d'écrire une scène parce qu'il y avait un chien dans un bus que je trouvais intéressant et drôle. Et donc, j'ai écrit une scène à partir d'un petit chien noir. Et parfois c'est une rencontre, parfois c'est un documentaire. Mon prochain roman, c'est... J'ai regardé un jour par hasard un documentaire sur la K-pop et maintenant je suis en train d'apprendre le coréen.
Sur quoi, pardon ?
Sur la K-pop, la musique coréenne. Donc c'est vrai que ça tient à pas grand-chose et je pense que c'est pour ça qu'on continue à écrire des livres. C'est parce que finalement on est incapable d'identifier ce qui va nous investir pour les prochaines années, pour les prochains manuscrits et pour les prochains projets qui, je parlais de se mettre debout, qui, quand on écrit, nous donne l'illusion qu'on se met un peu debout.
Je suis assez d'accord qu'il y a une notion sensuelle, enfin en tout cas un plaisir à assouvir qui est une nécessité. Et moi je ne le distinguerais pas vraiment du caractère peut-être moderne, contemporain qui réunit nos trois livres. au sens où, personnellement, c'est vrai que moi, mon plaisir, je l'aurais plus immédiatement à décrire le réel, le contemporain. Et après, je crois qu'il y a plein d'écrivains différents, des gens qui, au contraire, auront besoin de s'en extraire. Et moi, j'admire énormément des écrivains qui parlent d'un d'autres mondes, par exemple, Grac, je pense, est vraiment un écrivain qui propose un monde très très onirique, très très. On est très éloigné du réel, et moi, je serais absolument fantastique. J'en serais. Mais mon mouvement à moi, ça va être de regarder la société et de je pense, je serais peut-être pas trop capable de faire autre chose, et donc ça procure moi personnellement, c'est un plaisir du coup que j'ai, quoi, qui est pas. Je vois pas ça comme quelque chose que je peux distinguer, quoi, le terreau, la matière et le processus.
Vous savez de quoi on a envie quand on a fini votre livre, Abel ? Ça t'empire. Non, on aimerait
si
lire.
Si vous dites dormir, je vais mal le prendre.
Non, on aimerait maintenant lire la biographie de Robert Willow.
Pour un troisième livre, alors.
Ouais.
Biographie fictive.
Parce que.
Bon, elle est un peu dans le livre quand même, mais.
Oui, mais racontée par lui-même. Aller au bout de l'appropriation culturelle, justement. Ce personnage, il est tellement dessiné. Vous en faites un héros de son temps qui traverse les années Sartre, etc. Et on a vraiment envie de savoir mieux qui il est et peut-être même de lire davantage ce qu'il a pu écrire.
Ok, la balle est dans mon camp. Donc.
Ouais, c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'on a réussi à déterminer des points communs entre vos livres ? Vous avez parlé de modernité, tous les trois, c'est vachement facile hein, quand même, modernité. Peut-être faire mieux. Moi, je dirais que peut-être dans vos livres, il y a des personnages de femmes. Alors, ça a l'air très tarte à la crème, hein, mais pourtant, c'est vrai. Vos personnages de femmes sont telles que vous n'en auriez sans doute pas parlé de la sorte il y a 30 ans ou 50 ans. Il y a quelque chose, une émergence d'un féminin de façon très différente dans vos trois livres qui est très, très nouveau. Une perception justement de ce que c'est qu'être une femme. Et là, en l'occurrence, il y a deux hommes qui s'emparent de cette question. L'un par l'amitié, l'autre par la fiction pure, j'imagine. Je reste sur Agnès, hein. Je suis sûre que c'est vachement raide quand même ce qu'elle dit sur son mari. Mais c'est un féminin très, très émergent. Et vous aussi, Claire, il y a quelque chose dans aussi le lien mère-fille, la transmission du féminin, et peut-être de l'effroi, qui est très fort. Il y a aussi chez vous quelque chose qui a trait au thriller, dans la forme, il y a une espèce de suspendu permanent.
Oui, parce que c'est ce que j'aime lire, je pense. Donc c'est vrai que quand j'écris un roman, oui, j'ai peut-être justement besoin de. Je sais pas, c'est horrible de dire d'être pleine. Ça fait deux fois que je dis ça aujourd'hui, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un niveau et que là, j'écris des trucs nuls parce que j'en suis là et que c'est en train de monter et que quand vraiment j'en pourrais plus, j'aurai un livre. Et en fait. Je pense que c'est quand je suis pleine du livre que j'arrive à donner cette tension qui, c'est comme ce que j'aime lire. Donc oui, j'ai besoin de vraiment de me dire que ça emmènera le lecteur et que j'espère il lâchera pas.
En tout cas, on les lâche pas, vos livres, à tous les trois. 907 fois Camille de Julien Dufresne-Lamy, publié aux éditions Stock. Non, pas du tout. Plomb, bien sûr, tout à fait. Abel Quentin, Le Voyant des Tempes, j'étais prête à sortir les meilleures saillies d'Agnès. On en parlera tout à l'heure. Publié aux éditions de l'Observatoire avec un petit prix, qui est le prix de Flore. Tout frais, c'est un grand prix. Hein. Et puis Claire Castillon, Son Empire. J'ai failli refaire la gaffe. Son Empire, magnifique titre. Publié aux éditions Gallimard. On vous retrouve sur le stand L15 pour vous, Julien. L17 pour vous chez Gallimard, Claire. Et Abel, L13. Merci à tous pour votre attention.